Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez vous. Nous parlons des derniers feux de la belle époque, chronique culturelle d'une avant-guerre 1913-1914 qui est sortie au Seuil. Ces chroniques ont été écrites pour le magazine L'Histoire et ont été publiées donc dans le magazine L'Histoire entre janvier 2013 et juin 2014. Il y a donc un double sens de votre livre, un écart de 100 ans pile poil et un jeu de cet écart chronologique. Et puis aussi les derniers mois avant la guerre, mais que cet événement ne pouvait pas être connu des contemporains dont vous retracez certains épisodes. Parlez-nous de ce double jeu chronologique, 100 ans, et en même temps retracer des épisodes de la vie culturelle de cette époque, Paris et la France, juste avant une guerre dont ils ignoraient tout.
La belle époque, c'est une expression qui a été forgée après la Grande Guerre, avec un rien de nostalgie. Et quand on parle aujourd'hui de cette belle époque, il y a au fond deux mythes qui s'y rapportent. C'est que la belle époque, ça n'a pas été une belle époque pour tout le monde, donc ça n'a pas été une belle époque. Et l'autre mythe, c'est que, justement, ça n'a pas été une belle époque. Vous voyez, c'est un peu ambivalent, parce que d'un côté, il est vrai que c'est une époque encore très dure entre 1900 et 1914. La société française est encore une société marquée par des inégalités profondes. Il n'y a pas de protection sociale. On a voté en 1910 seulement la loi sur les retraites ouvrières. Et par conséquent, la France n'est pas particulièrement en avance sur cette protection sociale. La plupart des Français, une grande partie des Français, sont des paysans qui travaillent la terre, des petits propriétaires, qui ont énormément de mal, n'est-ce pas, à affronter toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Donc ce n'est pas une belle époque pour l'ensemble des Français. Il faut bien avoir cela en tête. La belle époque, c'est l'époque de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est-à-dire, en gros, 1 million de Français. 1 million de Français avec autour cette minorité, mais une minorité qui domine la société, toute une série de cercles concentriques qui sont plus ou moins liés à la prospérité bourgeoise. Mais d'un autre côté, il ne faut pas en rajouter sur cette observation que, au fond, la Belle Époque, c'est un mythe. Non. On peut défendre cette expression d'un certain point de vue, qui n'est pas le point de vue social, mais qui est le point de vue, je dirais, de la civilisation. Car indiscutablement, la France a connu, pendant ces 15 années qui précèdent la Grande Guerre, un éclat de civilisation tout à fait extraordinaire. Tout d'abord, même l'économie est en plein boom. Il ne faut pas oublier que les 20 dernières années du 19e siècle ont été des années de dépression économique et que les prix, la production, la consommation a recommencé au tournant du siècle, dans les toutes dernières années du 19e siècle. Et on a vu à ce moment-là des progrès quantitatifs considérables, des inventions. Si l'on parle de l'industrie, n'est-ce pas, on a vu naître et se développer l'industrie automobile, par exemple. Il y a en 1900, il n'y a pratiquement pas d'automobile. Hein. En 1914, il y a des dizaines de milliers de véhicules qui circulent en France. L'aviation, qui n'existait pas et qui, peu à peu, mais avec rapidité, devient une industrie. De l'artisanat, on passe à l'industrie. Et puis, nous avons depuis 1895, là nous entrons dans le domaine de la culture, nous avons l'invention du cinéma, qui devient un art populaire considérable. Donc, il y a indiscutablement quelque chose qui a changé dans ces 15 premières années du XXe siècle, et puis l'éclat vraiment exceptionnel de la production littéraire, artistique, musicale. Vous savez, quand on songe 100 ans plus tard, aux 15 années qui nous séparent du début, aux 14 années qui nous séparent du début du 21e siècle, on se dit, mais qu'est-ce qui domine véritablement ces années-là du point de vue culturel? Et la réponse, évidemment, ce sera, je crois, l'invention et la diffusion d'Internet, n'est-ce pas? C'est l'informatique, l'électronique qui fait la grande nouveauté du 21e siècle, c'est indiscutable, mais du point de vue artistique, du point de vue littéraire, est-ce qu'il y a, on pourrait dire, c'est cette extraordinaire efflorescence qu'on a connue avec des poèmes, des poètes comme Apollinaire, des écrivains comme André Gide, avec la revue, la Nouvelle Revue Française, avec Paul Claudel et le théâtre nouveau, enfin, bref. Dans ce feuilleton, j'ai tenté de relever mois après mois, à partir du mois de janvier 1913, et cela jusqu'au mois de juin 1914, l'événement culturel. L'événement culturel, aussi bien donc dans l'ordre de la littérature et dans l'ordre aussi de la culture populaire, puisque j'ai évoqué aussi le grand succès d'Arsène Lupin, des films de Louis Feuillade consacrés à Fantômas, etc.
Et ça fait une histoire culturelle où il y a la France, mais il y a avant tout aussi Paris. Paris, la ville centre du monde, une histoire culturelle, non pas une histoire ni économique ni sociale, parce que c'est cette histoire culturelle qui tient cette expression de belle époque avec Paris, centre du monde.
Incontestablement, Paris rayonne, peut-être comme jamais. Il y aura encore les années 1920, sans doute, mais plus que jamais, Paris est la capitale artistique du monde. La capitale française attire en effet les peintres et de tous les pays, les musiciens, les artistes, les écrivains, les peintres. Ils arrivent de partout, d'Italie, d'Espagne, qu'on songe par exemple à Picasso, que l'on songe à Modigliani, que l'on songe à tous ces artistes qui, entre Montmartre et Vavin, entre le bateau Lavoir où habite Picasso et les cafés de Montparnasse, on les voit, ils se rassemblent, parfois par nationalité, parfois de manière internationale. Ils discutent et cette montée de la peinture va avoir comme symbole, certainement, le succès, la victoire du cubisme. Avec le grand marchand de tableaux, Karl Weigler, qui a du flair et qui a senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer du côté de Montmartre et de Montparnasse. Il a admiré les demoiselles d'Avignon de Picasso. Il s'est attaché, par conséquent, à la production de Picasso, de Braque. Et tous ces peintres qui, depuis les impressionnistes, représentent la peinture nouvelle avec des formes variées, tous ces peintres se heurtent, s'opposent à une peinture académique, traditionnelle, qui est défendue par les institutions. Et tout cela donne une vie magnifique, avec des journaux qui s'intéressent précisément à cette vie artistique, à cette vie culturelle. Vous savez, il y a des événements littéraires ou artistiques qui font la une des journaux, à l'époque des quotidiens généralistes. Et qu'il s'agisse du dernier roman de Maurice Barrès, par exemple, qui est à ce moment-là des grands auteurs. Donc toute cette vie Évidemment, là, nous retrouvons, si vous voulez, le mythe de la Belle Époque n'atteint pas le fond des campagnes françaises, ces campagnes où vivent encore la majorité des Français. Mais il n'empêche que c'est aussi une culture populaire qui s'est développée à ce moment-là. J'ai parlé du cinéma, ça c'est très important. Parce que, bon, les petites gens n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Ils vont au café-concert et ils vont désormais au cinéma. Les salles se multiplient et les films, qui sont alors évidemment des films muets, sont des films de très grande qualité. Car il y a des films faciles, évidemment, mais avec des auteurs, des réalisateurs comme Louis Feuillade, on atteint un art qui est aujourd'hui encore célébré. Et donc, ce n'est pas seulement les rangs très limités de la bourgeoisie qui participent, n'est-ce pas, à cet essor culturel. Et puis dans la culture, peut-être qu'il faut placer aussi le sport. Et le sport connaît alors un essor formidable, parce que c'est le cyclisme avec, depuis 1903, le Tour de France, mais aussi les six jours au Veldiv, au Vélodrome d'hiver, et puis c'est le football, c'est le rugby, le tournoi des cinq nations a commencé, et donc ce sont des foules qui participent par conséquent à cet essor du sport en spectateur ou en praticien. Donc voilà, j'ai dit pour commencer, la Belle Époque, c'est l'époque, c'est la Belle Époque de la bourgeoisie, mais tout de même, petit à petit, le cercle s'agrandit. Et par exemple, quand on pense à l'aviation, il y a les meetings aériens. Tout le monde ne fait pas de l'aviation, mais il y a des foules pour assister à ces meetings aériens. Donc, moment exceptionnel, certainement. Bon, le 19e siècle est déjà très riche, n'est-ce pas, de production culturelle. Mais il faut voir que nous sommes désormais dans une société démocratique avec les libertés, liberté de la presse en particulier, liberté de réunion, suffrage universel naturellement, et que cette société démocratique qui se met en place et qui, encore une fois, est inégalitaire du point de vue social, est néanmoins une société de progrès. Et le mot progrès, qui est aujourd'hui complètement dévalué, qui a commencé à être dévalué avec la Grande Guerre, c'est une valeur qui est partagée par la majorité de la classe politique, par la majorité des citoyens, même s'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours, évidemment, une minorité qui n'y croit pas à ce progrès. Vous voyez ? Mais le progrès, oui, certainement, on peut accoler ce mot à la mentalité des gens qui ont vécu la Belle Époque.
Et là, Michel Vinocq, on arrive à la fin de votre ouvrage, il y a cette dernière phrase qui clôt votre livre, juste avant l'épilogue, phrase terrible qui fait son effet, les derniers feux de la Belle Époque se sont éteints. Juste après, on a un épilogue, que sont-ils devenus, tous ces personnages dont vous racontez dans votre livre? Et que sont-ils devenus? Ça permet de réévaluer les destins dans leur singularité face à un événement historique postérieur qu'ils ne connaissaient pas. Et là, ça nous donne un effet de vertige. Un vertige chronologique, un vertige temporel. Nous connaissons ces événements terribles, nous connaissons ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, mais eux, peut-être certains pouvaient sentir qu'une guerre pouvait s'imaginer, mais ils ne pouvaient pas s'imaginer concrètement comment elle allait se dérouler, quels allaient en être les effets.
C'est évident et c'est troublant. Vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose de vertigineux parce que nous venons après et nous savons ce qui va se passer. Donc nous avons du mal à comprendre pourquoi tous ces gens qui s'intéressent à la culture, au divertissement, au loisir, n'ont pas conscience de ce qui est en train de se préparer. Et s'ils n'en ont pas conscience, c'est aussi parce que la Grande Guerre, la guerre de 14, contrairement à la guerre de 39-40, cette guerre aurait pu être évitée. Elle n'était pas fatale. Bien sûr, il y a des raisons de conflit, nombreux. Et en particulier, un problème majeur, celui de l'Autriche-Hongrie, qui est un empire multinational dans lequel les minorités, précisément nationales, ont tendance à être des forces centrifuges qui risquent de faire exploser littéralement l'Autriche-Hongrie. Et comme il y a un système des alliances qui fait que l'Allemagne est l'alliée de l'Autriche-Hongrie et que l'Allemagne ne tient pas à ce que cet empire d'Autriche-Hongrie s'effondre, explose, elle va tout faire pour soutenir l'Empire austro-hongrois dans sa lutte contre les minorités, et tout particulièrement la minorité yougoslave, qui la menace de manière la plus évidente. Alors, jusqu'au 28 juin, et au-delà du 28 juin, le 28 juin, c'est l'assassinat de Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie sont assassinés. C'est un attentat, c'est un fait divers, mais quand on lit la presse, quand on lit les journaux, quand on lit les journaux intimes des écrivains, on ne voit pas que ils considèrent cet événement comme une menace sur la paix. On croit que ça va se régler. Et on y croit d'autant plus qu'il y a déjà eu des conflits internationaux. Nous sommes dans une époque où les rivalités nationales entre grandes puissances se succèdent. Il y a eu d'abord des rivalités coloniales, mais il se trouve que ces rivalités ont été réglées par des traités, et même en 1913, il y a eu la deuxième guerre balkanique qui risquait, n'est-ce pas, de faire exploser l'Europe. Eh bien, encore une fois, la paix a été réalisée sur le tapis vert, n'est-ce pas, entre des diplomates. Bon, donc. Au fond, il y a cette idée que la guerre est toujours possible, bien sûr, mais elle n'est pas du tout menaçante. Et même dans les milieux socialistes, il y a une théorie, en Allemagne en particulier, selon laquelle le capitalisme n'a pas intérêt à la guerre, pas du tout intérêt à la guerre. Donc il y aurait à la fois dans le socialisme, dans le capitalisme, des forces de paix. Bon, en tout cas, le mois de juillet. Nous lisons la presse, tous les grands quotidiens, et qu'est-ce que nous voyons en première page? D'abord, un grand débat. En France, un grand débat. L'impôt sur le revenu, parce qu'il n'existait pas encore. Et ce projet de loi sur l'impôt sur le revenu, qui va être du reste voté, indigne littéralement toute la presse conservatrice, n'est-ce pas, qui crie au communisme, au collectivisme, à la révolution, pour un impôt qui, Dieu sait, aujourd'hui est entré dans les mœurs. Donc voilà, on débat sur l'impôt sur le revenu. Et puis arrive le grand moment, un procès. Le procès de Madame Caillaud. Madame Caillaud, qui a tué d'un coup de revolver le directeur du Figaro, lequel Figaro avait mené une campagne contre son époux, Joseph Caillaud. Alors, c'est une grande dame, n'est-ce pas, qui passe au tribunal, aux assises, et ces assises vont durer des jours et des jours. Toute la presse, n'est-ce pas, se régale avec le procès Il faut attendre la fin du mois de juillet. Et l'ultimatum, par conséquent, lancé par l'Autriche-Hongrie à la Serbie, et le refus d'un des articles de l'ultimatum par la Serbie, suivi par le soutien de l'Allemagne à l'Autriche-Hongrie, pour que, enfin, on ouvre les yeux et que les choses vont se précipiter. Puisque l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie va mobiliser, la Serbie mobilise, la Russie mobilise, l'Allemagne va soutenir l'Autriche-Hongrie, la France va soutenir la Russie qui a mobilisé. Bref, le terrible engrenage du système d'alliance va se mettre en place jusqu'au moment où la guerre commençait, l'Allemagne décide d'attaquer la France en passant par la Belgique, et à ce moment-là, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne pour avoir trahi la neutralité, brisé la neutralité belge. Alors, cet engrenage terrible, on a l'impression qu'il se déroule en quelques jours. Et surtout, quand on étudie les choses, on voit que ça aurait pu être évité. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi, ces choses-là. Ça dépend évidemment des individus, des diplomates, des chefs d'État. Et on se dit, quoi, ils n'ont pas été à la hauteur. Alors parfois on entend cette réflexion selon laquelle la guerre était inévitable. La guerre était inévitable, du reste, aussi bien en Allemagne qu'en France, il y avait un nationalisme qui voulait en découdre. Mais quand on regarde les choses de près, prenons le cas de la France, puisque c'est de la France que je me suis occupé dans ce livre, on s'aperçoit qu'il y a un conflit sur la loi des 3 ans en 1913. En face d'une Allemagne qui est plus nombreuse et plus forte que la France, on a décidé, n'est-ce pas, d'augmenter les effectifs en allongeant d'un an le service militaire. De 2 ans, il va passer à 3 ans. Et il y a toute une campagne qui est menée par les socialistes en particulier, mais pas seulement par les socialistes, par des radicaux, par des gens sans parti, contre la loi des 3 ans. Or, ce conflit se termine par l'échec dans un premier temps des pacifistes, disons, de ceux qui ne veulent pas, des antimilitaristes, puisque la loi est votée. Mais aux élections qui ont lieu au printemps de 1914, qui l'emporte? Eh bien, ce sont ceux qui se sont opposés à la loi des 3 ans. Autrement dit, dire qu'il y a une opinion belliciste, c'est vraiment exagéré. Du reste, ceux qui ont voté la loi des 3 ans, ils n'ont pas voté cette loi pour faire la guerre, mais pour se défendre en cas de guerre. Et c'était un choix stratégique, par conséquent. Si l'on prend le cas de Clémenceau, qui a été un fervent défenseur de la loi des 3 ans, il n'est certainement pas belliciste, il ne veut pas la guerre, mais il se dit, comme d'autres qui l'ont voté, comme les autres qui l'ont voté, que c'était le seul moyen de faire face à une attaque de l'Allemagne très supérieure en nombre, et qu'il fallait voter cette loi. Donc, repoussons cette idée qu'il y avait en France un nationalisme tellement fort que la guerre était inévitable, avec l'idée de la revanche. Parce que cette idée de la revanche, elle a été dans les esprits, c'est indiscutable, après la guerre de 70-71. Et les Français, l'opinion, l'esprit public, n'a jamais oublié ce qu'on a appelé les provinces perdues. Elles sympathisent avec les Alsaciens, avec les Lorrains. Et sans arrêt, n'est-ce pas, c'est un contentieux entre la France et l'Allemagne. Mais pratiquement personne, ou que quelques minorités seulement, pensent que la question va se résoudre par la guerre, n'est-ce pas ? Alors, pour montrer que ce contentieux existait, j'ai présenté dans ce livre une pièce de théâtre qui s'appelle justement Alsace. Et cela montre qu'il y a encore une sensibilité très forte, n'est-ce pas, du côté français vis-à-vis des provinces perdues. Mais en aucun cas, elle est une raison de la guerre. Ce n'est pas une raison de la guerre. La raison de la guerre, c'est avant tout, je dirais, le mouvement des nationalités, le risque couru par un empire multinational d'exploser, sur quoi le système des alliances va se brocher pour rendre le conflit inévitable.
Et alors cette guerre, pour ces personnages, pour ces autres, enfin, acteurs, vous parlez d'acteurs dont vous retracez quelques épisodes dans Les derniers feux de la Belle Époque, Michel Vinocq. Cette guerre est un impensé, mais elle n'est pas seulement un impensé en tant que possibilité, mais son déroulement même, c'est-à-dire que ça soit une guerre qui dure plusieurs années, qui se tienne lieu, ou des nations se tiennent lieu face à face, dans des tranchées, avec tout l'imaginaire qui est qui s'en déclinent. Cette guerre n'a rien à voir avec, par exemple, la guerre de 1870. Elle a peut-être plutôt à voir avec la guerre de sécession américaine.
Certainement. On n'y croit pas lorsque la guerre éclate. On pense généralement, bon, les uns pensent que ce sera fini au moment des moissons, des vendanges, pardon, les autres pensent que ce sera fini à Noël. Et alors, il y a une image qu'il faut bien avoir à l'esprit et discuter, c'est cette image de ces soldats qui partent joyeux pour la guerre. Et indiscutablement, il y a eu dans les rues des grandes villes où ils étaient mobilisés, des départs en fanfare, des départs qui révélaient un esprit cocardier. Cette image, il faut la corriger. Premièrement, par cette idée-là, oui, que ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer longtemps, et par conséquent. Bon. Et puis, n'oublions pas que tant que la guerre n'est que la mobilisation, qu'elle n'est pas encore l'affrontement sanglant entre des camps adverses, tant qu'elle se déroule dans ces quelques heures-là de la mobilisation, c'est tout à fait autre chose que la guerre réelle. D'abord, ces hommes, je l'ai dit, sont pour la plupart des paysans, des gens de la France rurale. Ce sont des paysans, des gens de la France rurale, des gens qui travaillent 12 heures par jour. Et la guerre, c'est une sorte de récréation. Naturellement, non pas la guerre qui va durer 4 ans, mais ces heures-là de la mobilisation. On va rompre avec le quotidien, avec le travail très dur. Et il y a une sorte de, bon, je ne dirais pas d'air de vacances, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe dans les esprits. Et tout le monde le note, n'est-ce pas? Au début, on y va comme ça, avec la fleur au fusil. Mais Jean-Jacques Becker a fait une étude très poussée, n'est-ce pas, sur ces heures-là, sur l'entrée en guerre, et il montre bien qu'il ne faut pas céder au mythe de ces images de piou-piou qui partent joyeux pour la guerre.
Oui, parce que pour les personnes dont vous parlez, les acteurs dont vous parlez dans votre livre, Michel Vinocq, qui sont plutôt parisiens, qui sont plutôt intellectuels, les destins vont différer. Il y a le cas d'Apollinaire, par exemple, lui qui s'engage, d'autres qui, par l'âge ou par la maladie, sont plus en retrait. On pense à Proust, prostré dans sa chambre, malade.
Songez aussi à Kahn-Weigler, qui est allemand,
oui,
et qui, lui, par conséquent, est mort, et qui perd tout, momentanément, en tout cas, qui voit sa galerie fermée, etc. Et donc, il y a aussi ceux qui sont tués, comme, bon, évidemment, on pense aux écrivains comme Peggy, Psychary, etc. Peggy qui a été un des premiers tués de la Grande Guerre. Alors, sur Peggy, j'ai consacré au moins un chapitre, et même un peu plus, parce que c'est un cas intéressant. Lui a cru dans la guerre, il l'a cru inévitable, et c'est un des rares, et ajoutons qu'il l'a souhaité, il l'a dit carrément, n'est-ce pas, la guerre qui sera la guerre du droit, n'est-ce pas, la guerre de la justice, la guerre de la République, et cette conviction l'a opposé à Jean Jaurès, qu'il avait d'abord admiré dans sa jeunesse au moment de l'affaire Dreyfus. Et aux yeux de Peggy, Jaurès est devenu le traître, n'est-ce pas, celui qui ne veut pas armer la France, justement face au danger allemand. Et Peggy a eu des mots d'une injustice incroyable, dans sa revue, Les Cahiers de la Quinzaine, traitant Jaurès, n'est-ce pas, de tous les noms. Il y a là un drame qui fait partie de notre histoire littéraire, de notre histoire culturelle, parce que ces deux hommes-là, au fond, méritent une admiration commune, aussi bien le héros socialiste, le héros de la paix, que le grand écrivain qui est Peggy. Du reste, Jaurès avait été formel, n'est-ce pas, dans sa campagne contre la loi des 3 ans. Il avait pu dire qu'il se battrait jusqu'au bout pour la paix, mais que, naturellement, cela n'empêchait pas le fait que si la France était menacée, voire envahie, eh bien, il appellerait à la défense. Ce qui explique, du reste, pourquoi, dans les jours qui ont suivi la déclaration de guerre, le Parti socialiste, la CGT, qui avaient mené campagne contre la guerre, se sont résolus, justement, à l'Union sacrée. Donc, des destins diversifiés par les statuts, les nationalités. Il y a beaucoup d'étrangers qui vont revenir dans leur pays, d'autres qui vont s'engager dans les forces françaises. Il y a ceux qui vont mourir très tôt, tragiquement. Toutes les vies sont évidemment bouleversées. Apollinaire, vous y faisiez allusion, lui, il mourra de la grippe espagnole, qui a fait des ravages donc à la fin de la guerre. Et tout cela, quand on y pense, ne pouvait pas être pensable, n'était pas pensé en 1914. Et c'est cela qui nous... Je reprends le mot que vous avez eu tout à l'heure, qui nous donne un peu le vertige, n'est-ce pas? Comment l'impondérable, l'imprévisible fait partie de l'histoire? Comment nous pouvons être subitement bouleversés, entraînés par un événement qui n'était absolument pas programmé? Ça fait réfléchir.
Oui, vous employez même pour qualifier votre ouvrage de perversion téléologique. C'est dans votre introduction, oui. Vous employez l'expression Michel Vinocq de perversion téléologique.
Oui, vous savez, c'est un petit peu le péché mignon de tous les historiens et de tout le monde. C'est-à-dire que quand un événement a eu lieu, il devait avoir eu lieu. Et par conséquent, on va chercher les raisons. Et c'est très facile de trouver toutes les causes, toutes les raisons qui convergent vers l'événement fatal. C'est ça l'attitude téléologique, faire en sorte que ce qui a eu lieu était inévitable. Alors, il y a un exercice qui n'est pas trop pratiqué, heureusement. Il y a un exercice qui n'est pas trop pratiqué, heureusement, qu'on appelle l'Uchronie. Et l'Uchronie, précisément, ça consiste à partir d'un postulat que tout n'est pas inscrit d'avance, que les choses auraient pu se passer autrement. Alors, pour la guerre de 14, si la guerre n'avait pas eu lieu, n'est-ce pas? Alors, vous vous rendez compte, si la Grande Guerre n'avait pas eu lieu, tout le XXe siècle aurait été changé. Parce que la révolution de Lénine, c'est la guerre. La prise de pouvoir en Italie par Mussolini, c'est une des conséquences de la guerre. Et puis plus tard, ce sera le nazisme, enfin. Et toutes ces destructions, la ruine de l'Europe, la montée en puissance des États-Unis, enfin, etc. Donc, la Grande Guerre est la matrice, vraiment, de l'histoire du XXe siècle. Et alors, elle n'aurait pas eu lieu? Alors, bien sûr, on peut dire, ce n'était qu'un sursis, elle n'aurait pas eu lieu en 14, mais étant donné le problème des nationalités et la menace qui pesait sur l'Autriche-Hongrie, étant donné le système des alliances, finalement, c'était retardé pour mieux sauter, elle aurait pu avoir lieu un an, 2 ans, 3 ans plus tard. On peut se livrer à cet exercice, c'est intéressant. Mais le fait est que les choses ont eu lieu telles qu'elles ont lieu, il n'y a pas à y revenir, c'est comme ça.
Mais ça donne le vertige. Je voudrais terminer sur cette notion de vertige que votre livre m'a particulièrement procuré, Michel Vinocq, parce qu'il y a qu'à la toute fin, les dernières pages de votre livre « Les derniers feux de la Belle Époque » où, là, effectivement, la guerre se fait présente, en tout cas le déclenchement de la guerre. Mais tout le livre... On est hors guerre, on est complètement hors guerre. Or, on est juste avant, on est hors guerre. Ces personnes-là, toutes ces personnes, tous ces acteurs sont hors guerre, complètement hors guerre. Ils ignorent, mais de la manière la plus totale, tout ce qui va se passer après. Moi, ça m'a donné un grand vertige, on va dire chronologique.
Oui, mais c'est une leçon, si vous voulez, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1936, on savait bien, même 35-36, on connaissait les intentions de Hitler et que la guerre a paru inévitable à beaucoup d'esprits. Ça n'a pas été le cas à ce moment-là, parce qu'on peut toujours parler, on a parlé, on a discuté des responsabilités, de qui était le coupable de cette guerre. C'est un problème très difficile, parce que on a pu, évidemment, les Allemands ayant perdu la guerre, on a pu charger l'Allemagne. Et probablement, pour une raison précise, c'est que l'état-major allemand, tout de même, a certainement poussé à la guerre. C'est-à-dire qu'elle a, l'état-major a poussé le gouvernement allemand du Reich à soutenir à fond l'Autriche. Et que là, il y a une responsabilité peut-être plus forte encore que les Russes, après tout. La Russie a soutenu à fond la Serbie et puis la France. La France... Les diplomates français, le gouvernement français ont répété à la Russie qu'en cas de guerre, la France serait du côté de la Russie. Qui est responsable? On a dit, alors en Allemagne, on dit, mais il y avait l'angoisse de l'encerclement entre l'Ouest, où il y avait les Français et les Britanniques, l'Est, où il y avait les Russes. Et puis cette Autriche-Hongrie si fragile, cette impression d'encerclement explique beaucoup de choses. Enfin, pour conclure sur ce point, les responsabilités sont encore aujourd'hui discutées parce que, vraisemblablement, elles sont partagées, n'est-ce pas? Elles sont partagées. Alors, il y a eu quelques esprits, hein, on l'a dit à propos de Peggy, qui ont senti que la guerre arrivait, que la guerre était inévitable, mais vous aurez raison de noter que, moi, ce qui m'a frappé, c'est tout de même que tous ces gens, ces artistes, ces écrivains, ces peintres, tous ces musiciens, tous ces gens auxquels je me suis intéressé, sont, je reprends votre expression qui est très bonne, hors guerre. Ils ne voient pas la guerre se dessiner avant la fin de juillet 1914. Mais vous savez, en histoire, il faut, on a souvent voulu décréter des lois ou un certain déterminisme, des mouvements inévitables. Mais en fait, quand on regarde de près, on voit quel est le poids de la contingence, du hasard. Cette contingence qui peut parfois s'incarner dans des décisions qui sont prises par des individus. Et dans le cas de la guerre de 14, certainement, je crois davantage aux décisions des individus qu'à un déterminisme, qu'à une fatalité.